Philippe Vandel.
Merci, merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début. Allez hop, autre compliment à suivre. Eva Rock pour son zapping du lendemain avec de l'amour dans l'air et Bertrand Chameroy pour son écran de veille énigmatique. Notre invité sera le poète, rappeur et écrivain Abdal Malik. Pas pour un nouvel album, mais pour citer sa première série entièrement diffusée sur la plateforme TikTok et produite, on va dire comment, de manière très étrange. Jean-Léon Châtelier va nous dresser son portrait musical, c'est presque une nouveauté. Et puis dans Les Indispensables, une série documentaire sur une affaire qui implique Woody Allen, c'est Margot Barallon qui nous en dira plus. Et puis le cycle créatif d'une chanteuse de jazz, Eva Rock revient pour nous la faire découvrir. Bonjour donc Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Philippe Vandel.
C'est l'heure de votre écran de veille Bertrand et vous avez passé un week-end mystérieux m'avez-vous dit.
Oui Philippe, c'est armé d'une gabardine et de ma pipe que j'ai occupé mon vendredi soir à enquêter, à tenter de découvrir qui composait les énigmatiques binômes de la nouvelle émission de TF1, Duo Mystère. Duo Mystère, un programme déconseillé aux personnes cardiaques. Hein. J'espère que la prod avait prévu un défibrillateur en coulisses parce que ça a tachycardé sévère.
Ah là là, j'ai le cœur qui bat à 400
mais moi aussi.
Mon cœur, il bat à 1000 à l'heure. 1500, 1024, 47 000 à l'heure.
À l'animation, la juste super Alessandra Juste Sublé qui nous a juste fait passer juste une trop bonne soirée.
Au final, c'était juste magnifique, c'est juste énorme. Ce duo était juste sublime. J'aimerais juste Vita.
Le concept de l'émission, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est juste super simple. C'est Masked Singer, mais sans costume et sans jury. Deux stars chantent cachées derrière un tube d'écran sans savoir avec qui elles chantent car leur voix est trafiquée. Mais le public, lui, peut tenter de deviner de qui il s'agit, car pour les téléspectateurs, la voix n'est pas modifiée. C'est clair pour tout le monde ?
Ouais, à peu près.
Voilà, c'est pas super compliqué à comprendre, mais je pense que la production avait mal briefé les stars qui participaient, puisque même elle avait du mal à imprimer le principe de l'émission.
Est-ce que toi, tu savais pas que c'était moi ?
Non ? Toi, tu savais que c'était moi ?
Ah non, moi, je savais rien.
Ah, toi, tu ne savais pas non plus ?
Non.
Voilà, donc il n'y a pas que les duos qui étaient mystérieux, le concept aussi, visiblement. En revanche, les amateurs de suspense ont été servis, il y avait une de ces tensions.
Alors, préparez-vous, vous aussi, à jouer et à être surpris. Est-ce que vous réussirez à deviner qui se cache sous le tube ?
Il va falloir être patient et tendre bien l'oreille.
Ouh, cette enquête s'annonce aussi corsée que compliquée. Vais-je réussir à démasquer la star qui se cache derrière l'écran avec pour seul indice le son de sa voix ? Mystère.
Encore un effort. Moi suffiront. Je suis presque mort. Quelques mois et c'est bon.
Qui cela peut-il bien être? Au hasard, je dirais Patrick Fiori ou Patrick Fiori, dont la voix n'est absolument pas reconnaissable dès la première note. Quel mystérieux duo que celui-ci. Bingo, c'était Patrick Fiori qui a vraisemblablement vécu l'expérience de sa vie.
T'as vécu beaucoup d'émotions en télé, tu connais ça par cœur, Patrick? Duo Mystère, c'est l'étape au-dessus.
Ah bah oui, elle est sympa, au moins, en termes d'émotion, on est au max. Clairement, pour Patrick Fiori, il y aura un avant et un après son duo Mystère avec Inès Reg. Mais de tous les duos Mystère, celui qui m'a le plus bouleversé, c'est celui-ci.
C'est un honneur de chanter avec toi. Incroyable, si j'avais su que j'allais chanter cette chanson avec toi un jour.
C'est génial.
Daniel Lévy et Slimane.
Quoi ? Qu'entends-je ? Slimane et Daniel Lévy ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? TF1 a osé séparer Slimane de Vita, qui a elle-même chanté avec quelqu'un d'autre ? C'est historique ! Pour la première fois depuis 2019, TF1 a osé faire chanter Vita et Slimane séparément. C'est la première fois que ça se produit. Les Siamois de la chanson française décollés en prime sur TF1, c'est inédit. Plus rien ne sera comme avant, maintenant que la première chaîne d'Europe a causé cette faille dans la matrice. Slimane sans Vita, c'est l'un des signes annonçateurs de l'apocalypse. Le pire est devant nous. Préparez des stocks de pâtes, de PQ. Quel feutrez-vous dans la panic room? La fin est proche.
Oh mon Dieu, tu es fou. Il est fou ce Chameroy. On n'est que lundi. On est que lundi. Merci beaucoup.
Ressenti
Bertrand Chameroy.
Jeudi.
Mais bon. Et vous finissez comme ça, votre chronique.
Bah oui, parce que
non, vous voulez une chute en plus. La chute, je peux vous dire, c'est les infirmiers qui viennent le chercher.
Ah bah oui,
ils l'emmènent à Sainte-Anne. Eva, c'est l'heure de votre zapping du lendemain. Les programmes du soir à ne pas manquer. Quel thème, Eva, les réunit?
Ah bah alors, c'est beaucoup plus calme. Enfin, c'est quand même l'amour, la passion amoureuse. Alors, avec un brin d'érotisme sur France 3, un documentaire intitulé Paris romantique, Paris érotique, Bertrand. Alors, n'imaginez pas du tout un programme interdit aux moins de 18 ans. Bien au contraire, j'encourage les collégiens, les lycéens à regardez ce documentaire.
Qui est à la fois... mentalité.
Mais oui, parce qu'il est à la fois historique, culturel et géographique. En fait, il s'agit bien d'établir une cartographie des quartiers au gré des relations hommes-femmes depuis au cours des 150 dernières années. Alors, des cafés de Montmartre, au cabaret de Pigalle, en passant par les caves enfumées de Saint-Germain dans les années 50. Et on y apprend notamment l'origine du mot midinette.
À l'origine, la midinette est une ouvrière de la couture, petite main des grandes maisons de mode. À la pause de midi, elle fait sa dinette. Voilà pour le surnom. Désormais, il vaut pour toutes les jeunes travailleuses de Paris. Dactylo, demoiselle du téléphone, vendeuse ou employée. Ni femme du monde, ni d'avant-garde, les midinettes revendiquent leur part de chic et de charme, de jeunesse. Et de fantaisie.
Eh ben, j'ai appris quelque chose.
Ah ben, vous voyez, voilà, documentaire riche en archives avec quelques témoignages, une histoire étonnante qui est particulièrement bien narrée entre passion amoureuse et scandale. De l'amour et du scandale aussi sur France 5 avec le film d'André Cayatte, Mourir d'aimer. Retour sur le destin de Gabriel Russier, professeur de lettres, condamné, vous vous en souvenez peut-être, oui. En 1969 pour avoir eu une relation avec un de ses élèves qui était âgé de 17 ans et demi. Une histoire qui se termina tragiquement par le suicide de l'enseignante.
Vous connaissez son âge ?
Pour moi, c'est un homme. Jeune. Je l'aime.
En maître, tous les enfants se sont pris pour des hommes. Mais la loi est restée la loi.
Avec dans le rôle principal, vous venez d'entendre sa voix, Annie Girardot, toutes les télés lui rendent hommage en ce moment, ça fait 10 ans qu'elle est décédée. Un film qui fut vu à l'époque par plus de 6 millions de spectateurs, imaginez le succès. Mourir d'aimer est un grand film féministe dans lequel André Cayatte analyse avec justesse la société française de la fin des années 60, mais aussi le fonctionnement de la justice et puis la notion de présomption d'innocence. L'amour, encore et toujours, avec un autre film, c'est sur Arte, ça s'appelle La fin d'une liaison, triangle amoureux pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec Henri, le mari haut fonctionnaire, gentil mais un peu pépère, Sarah, sa femme qui s'ennuie, et Maurice, l'amant, écrivain, séduisant et rongé par la jalousie.
Je mesurais la taille de mon amour à l'étendue de ma jalousie, et comme ma jalousie était infinie...
Quand on aime, on est toujours jaloux.
Mon amour aurait dû être infini lui aussi.
Si tu étais malheureux, je le serais également. Quoi que tu fasses, si ça te rend heureux, je trouverais ça bien.
Même si je couche avec une autre ?
Ça c'est une autre question, je veux ton bonheur, hein, point c'est tout.
Peut-être cherches-tu une excuse pour en faire autant.
Je ne ferai jamais ça.
Tu le fais déjà.
Je fais quoi ?
Tu couches avec un autre ?
Un film adapté d'un roman de Graham Greene, vous avez entendu le côté littéraire des dialogues, un drame rythmé par des scènes où chaque détail, une main effleurée, un bas remonté sur la jambe de Sarah, donne une dimension sensuelle au récit. Donc célébrez l'amour ce soir sur France 3 avec Paris romantique, Paris érotique à 21h05, sur France 5 avec Mourir d'aimer à 20h50 et sur Arte avec La fin d'une liaison à 20h55.
Merci beaucoup Eva Rock, on vous retrouve tout à l'heure Eva pour votre indispensable, on va parler jazz, et Bertrand Chameroy, merci également, on vous retrouve demain à 7h40 pour votre chronique, c'est là-dessus.
Peut-être.
Dans la matinale de Mathieu Béliard. Oui, si les infirmiers vous libèrent.
Ils arrivent.
En tout cas, quel duo tous les deux. Dans un instant, notre invité Abdelmalik. En attendant, musique avec justement encore un duo, Offenbach. Bonjour Abdelmalik.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes rappeur, poète, écrivain, même cinéaste. Notamment en 2015, le film Kala bénisse la France, adaptation de votre roman du même nom, et deux fois nominé au César. Et votre actualité, c'est ni un film, ni un livre, ni un album, mais une série d'un genre totalement nouveau. Ça s'appelle Cité, comme des cités, avec un S à la fin. Une série de 12 fois 1 minute, entièrement diffusée sur la plateforme TikTok, et là c'est encore plus étrange, produite par Amazon Prime Video. Racontez ce projet un peu fou, c'est Amazon qui vous a contacté.
Oui, mais enfin, étrange, pas si étrange que ça. L'idée c'est d'explorer des nouvelles plateformes. Nous on est des raconteurs d'histoires. Donc...
Je vous interromps, ce qui est très étrange, on en parlera tout à l'heure, c'est que si Amazon décide de faire une série, ils la diffusent sur le site Amazon. Ils ont leur site dédié Amazon Prime. Et qu'ils aillent ensuite la poster sur TikTok, en cela, c'est vraiment une première, à ma connaissance.
Ouais, c'est une première mondiale. Mais l'idée, c'est ça, je pense, c'est d'explorer, pour eux en tout cas, d'explorer d'autres plateformes, et pour moi, d'explorer d'autres manières de raconter des histoires, en fait. Mmh. Et moi, c'est toujours la même chose. Donc, ils rentrent en contact avec moi, ils disent voilà ce qu'ils veulent faire, en gros. Et moi, je trouvais ça super, parce que c'était comme une sorte de figure imposée. Et mon idée, c'était comment j'allais pouvoir raconter... une histoire, les histoires comme j'aime les raconter, avec les thématiques qui sont importantes pour moi dans ce format-là.
Alors pour l'instant, on est très vague. Concrètement, ils voulaient faire quoi et vous en avez fait quoi ?
Eux, en fait, ce qui les intéressait, c'était d'utiliser justement TikTok pour pouvoir raconter une histoire, faire une série, quelque chose. Et moi, tout de suite, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, OK, donc raconter une histoire sur TikTok, donc avec les codes de TikTok, pour la communauté TikTok, en castant les différents acteurs sur TikTok et en utilisant la grammaire de TikTok, je trouvais que c'était passionnant en fait. Donc du coup, je suis rentré dans cette application que je ne connaissais pas. Je suis allé voir comment ça fonctionnait, etc. Et j'ai utilisé cette grammaire, la grammaire, pour raconter une histoire de jeunes qui se fédèrent et finalement comprennent que la culture est non seulement est autour d'eux, mais que c'est eux, en fait, et qu'il n'y avait pas de décalage entre le patrimoine culturel français et la jeunesse française d'aujourd'hui.
La série est en 12 épisodes. Chaque épisode prend pour titre une référence de la culture française.
Exactement.
C'est-à-dire, donc, il y a une petite histoire autour d'eux. On va peut-être entendre un exemple pour comprendre. Par exemple, vous parliez de la manière dont on se sert de la grammaire TikTok. Par exemple, je précise, ça ne se voit pas à la radio, évidemment. Ce n'est pas filmé de manière horizontale, comme un écran de 16/9, comme disait, je ne sais plus qui, c'est fait pour filmer les serpents, le cinémascope. c'était Fritz Lang qui disait ça. C'est fait pour filmer les morts et les serpents, le cinémascope. Là, c'est vertical. On tient son téléphone de manière verticale. On voit ceci. C'est l'épisode 4 avec lequel on va commencer. Vous mettez en scène l'arrestation d'une jeune fille par la police et vous utilisez tous les effets visuels de TikTok. Vous allez même plus loin. Comme ça se passe rue Marivaux, vous leur faites dire du Marivaux, mais avec en prime des effets sonores extraits.
Pas de goût. Allez, allez, ne perdons pas notre temps. Suivez-moi. Mais... Avançons, je t'en prie.
Je t'en prie, je t'en prie, comme vous êtes si vieux et poilu.
C'est l'heure du pays qui fait ça.
Allons, hâtons-nous.
J'adore le son quand il dit « Allons, hâtons-nous ». C'est du Marivaux, mais avec le son de maintenant.
Ouais, on peut dire ça, mais c'est vrai que là, il n'y a que le son. L'image joue énormément. Et puis, il y avait une autre, entre guillemets, contrainte également, c'est que ça ne doit pas durer plus d'une minute. Mm-hmm. Donc ça, c'était hyper intéressant pour moi. Comment aller au plus vite, raconter son histoire au plus vite. Et voilà, et surtout, comment on va raconter autrement le patrimoine.
Vous savez quoi ? Vous avez une minute pour m'expliquer ceci, pour répondre à cette question. Il y a Aragon, Camus, Paul Éluard, Georges Sand qu'on croise, mais vous démarrez l'épisode 1 et le 12 par Isabelle Eberhardt, qui est moins connue que ces gens que je viens de citer. Qui est-elle ? Une minute.
Ben, elle est journaliste de formation, mais c'est surtout une femme qui est allée en terre d'islam, qui a embrassé l'islam et qui a évolué dans un monde d'hommes et qui a raconté finalement la fraternité, la sororité. Et pour moi, c'était hyper intéressant, surtout à notre époque où la réflexion du genre, la femme, et puis ce rapport réel, de mon point de vue, à la spiritualité qu'est l'islam et pas à sa caricature qu'on voit malheureusement aujourd'hui.
Et c'est vraiment une pionnière, parce que ça se passe quand ? On est entre le 19e et le 20e siècle.
Exactement, entre le 19e et le 20e siècle. Donc pour moi, c'était passionnant de raconter ça, et puis aussi de faire découvrir une figure, de mon point de vue, qui est importante pour... La culture et le patrimoine français. Et voilà, c'était important de pouvoir faire découvrir des figures.
Puisque vous parlez de découverte, on va découvrir votre portrait musical Abdelmalik avec Angèle Châtelier dans un instant. À tout de suite. En compagnie d'Abdelmalik qui signe Cité, c'est comme une cité mais avec pluriel. C'est la première série sur TikTok, première série française sur TikTok, 12 épisodes d'une minute. Je vous présente Angèle Châtelier. Bonjour Angèle.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Pas de portrait inattendu cette semaine. On retrouve Hélène Manarino la semaine prochaine et on l'embrasse et elle nous écoute. Mais en attendant, on va apprendre à mieux connaître nos invités avec vous, Angèle, et en musique.
Bonjour Abdelmalik.
Bonjour.
Vous êtes un artiste engagé aux multiples vies, l'amoureux des mots, des lettres, on le sait. Et la musique vous a toujours accompagné, que ce soit pendant votre enfance à Brazzaville, puis vous vous êtes installé à Strasbourg avec votre famille. Votre première expérience musicale est en allemand ou en alsacien, puisque vous avez été enfant de chœur. Et les chants que vous avez interprétés étaient dans ces langues-là. On en a un petit extrait.
C'est vrai ?
Ouais, c'est totalement vrai.
Vous chantiez la messe en allemand ?
En allemand, et puis on traduisait derrière, en français. C'était en allemand et en français.
Alors, ce n'est pas là que vous avez vécu votre premier émoi musical. La première fois où vous vous êtes dit « Waouh, transcendé », c'était avec « Billie Jean » de Michael Jackson. Vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez entendue, cette chanson ?
Ouais, je me souviens, bien sûr, je me souviens. Je pense que c'était les 25 ans de la Motown, un truc comme ça. Et on voyait Michael Jackson, d'ailleurs, je crois que c'est l'une des premières fois qu'il interprétait le morceau et qu'il dansait en même temps, qu'il faisait le moonwalk. Ah ouais. Incroyable.
C'est vrai.
Bouleversant.
Alors, votre vie musicale est faite de voyages. Il y a d'abord le Congo, vos origines, vous vous en êtes imprégné indéniablement. Et ça, c'est aussi grâce aux femmes de votre vie, votre mère et vos tantes qui écoutaient des chanteurs congolais à la maison, que ce soit Franco ou Papa Wemba. Ça devait danser à la maison.
Ah, ça dansait, ça festoyait.
Mais alors Abdelmalik, c'est aussi la chanson française qui a jalonné votre vie. Juliette Gréco, Jacques Brel, vous avez chanté avec la première et vous avez rendu hommage au deuxième. Votre chanson Les Autres est d'ailleurs inspirée de ces gens-là de Jacques Brel.
Pour vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie.
C'est aussi votre mère qui vous a initié à la prose et à la musique de Jacques Brel.
Ouais, c'est ma mère aussi. En fait, ma mère, elle avait un rituel. Tous les dimanches, c'était chanson française.
C'est vrai.
Ouais. Donc tous les dimanches, et c'est comme ça que je me suis fait ma culture chanson.
C'est vrai.
Ouais. Ouais. Tous les dimanches, c'était que chanson française.
Mais c'est formidable. Ça veut aussi dire que du lundi au samedi, c'était chanson pas française.
Ah ben oui.
Donc ça ouvre vraiment l'esprit.
Moi, je suis né dans une fête africaine. Vous devez comprendre ça.
Mais alors là, nous parlons de vous, enfant. Depuis, c'est vous, le parent, et vos enfants, vous essayez de les initier à toutes les cultures, à toutes les musiques avec lesquelles vous avez grandi. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce qu'ils sont plutôt réceptifs?
Ils sont pas très musiques, en fait.
C'est vrai.
Ouais, ils sont plus livres, jeux vidéo, cinéma, mais musique, bof.
Ouais.
Ils sont pas très. Ben, leurs deux parents sont dans la musique, maman, papa, donc c'est, je sais pas, ça peut être un côté professionnel.
Et il y a plein de parents qui nous écoutent et qui se disent formidable, comment vous avez réussi à leur faire lire des livres et qu'ils soient à fond dans les livres?
En vérité, j'ai pas fait exprès, c'est juste qu'ils me voient lire souvent et on a une très, très, très grande bibliothèque à la maison. Maman lit, papa lit, donc je pense qu'ils nous imitent. Et ça a commencé comme ça.
Ça veut dire quand vous essayez de leur faire écouter des morceaux, ils sont pas.
Non, ils sont pas très chauds. Ils sont pas très
chauds. Et les vôtres?
Mes enfants?
Non, les vôtres de morceaux?
Même les miens? Non, même pas. Mon aîné, la première fois qu'il est venu me voir en concert, il avait 17 ans, pour vous dire.
D'accord.
Mais attendez, et on peut dire comment il a trouvé ça?
Oui, il a trouvé que c'était bien, mais bon, ouais, ça va, il a trouvé que c'était bien. C'est pas ennuyé en tout cas.
Voilà. Enfin, Abdelmalik, vous avez comme beaucoup vécu un deuil musical récemment lorsque nous avons appris le décès de tonton David.
Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, t'es que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin.
C'était un artiste que vous admiriez beaucoup, je crois, c'est pour vous une grande perte.
Ouais, pour moi, c'est une grande perte pour la chanson française, en général, c'était un grand artiste. Il avait une écriture particulière. Il était vraiment, c'était quelqu'un avec qui on s'identifiait facilement et c'était un bon artiste.
Ouais.
Et un bel être humain.
Et pour terminer sur une chose plus joyeuse, peut-être, on salue tonton David et sa mémoire en tout cas. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment?
Ben, en ce moment, qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? C'est ouvert, mais je vais revenir sur tonton David parce
Allez-y.
Que ces dernières semaines il y a eu son enterrement et tout ça, donc j'écoute beaucoup j'ai réécouté tonton David et de la musique reggae, raga en général français. J'ai réécouté Raga Sonic, j'ai réécouté des gens comme ça, en fait ça m'a mis dans un état.
Saï,
bien sûr. Et ça m'a mis dans un état où j'ai réécouté en fait tous ces artistes là, Pierre-Paul Jacques, enfin ces gens là
Pierre-Paul Jacques, j'adore. Merci beaucoup Angèle Châtelier pour ce portrait musical. On se retrouve demain, dans un instant. C'est Eva Rock, on va rester dans la musique, qui sera de retour pour son indispensable autour d'une très belle voix du jazz. À tout de suite. En compagnie d'Abdelmalik, poète, rappeur, écrivain, mais cette fois il vient pour un objet culturel d'un genre complètement nouveau. Ça s'appelle Cité, c'est une série, c'est 12 fois une minute, c'est sur la plateforme TikTok et c'est en vertical, on peut le voir sur son ordi, mais même sur l'ordi, sur vertical comme sur votre smartphone, il y a 12 petits épisodes, chaque épisode peut se voir de façon indépendante, mais il y a une histoire globale. Je voudrais qu'on entende un extrait de l'épisode 5 par exemple. Il y a un type qui est assis sur un trottoir, ça raconte les pérégrinations d'une bande de potes, il n'arrive pas à se lever, il a une vingtaine d'années et c'est là que la bande-son démarre.
Avec ce terrain vague en lieu et place de ce cœur qui s'étiole, la cité des aviateurs ploie sous ces espoirs qui ne prendront jamais leur envol. La caravane du sédentaire et la malédiction du voyageur. Ne jure-t-on pas sur les morts lorsque le vivant exhume sa noirceur? Avec le passé qui prédit l'avenir, si l'enfant savait, voudrait-il encore grandir? Mais on a tous les âges quand on est un enfant des gens du voyage.
C'est vous qui chantez évidemment, c'est une chanson que vous avez écrite pour cette série ou elle préexistait?
Elle préexistait, c'est une musique que j'ai faite avec Gérard Joannès,
Le pianiste de Gréco.
Ouais, et de Brel également, le regretté. Et donc j'avais fait ça et J'avais pensé vraiment directement, quand j'écrivais cette scène, je pensais que cette musique, elle faisait sens. Et donc voilà, donc j'ai mis ça ensemble. Ouais.
Et on a tous les âges, quand on est un enfant, des gens du voyage. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une très belle phrase. Elle est de qui et qu'est-ce qu'elle veut dire? Comment vous l'entendez vous-même?
Elle est de moi-même. Ce que j'aime, c'est que chacun puisse entendre comme il veut. Mais elle est de moi et l'idée, c'était de dire que finalement, on est tous en mouvement, on est tous en, que ce soit concrètement ou que ce soit au niveau, j'ai presque envie de dire spirituel, on évolue tous, on chemine tous. Donc on est tous des gens du voyage.
Je vous pose la question, parce que dans la série, il y a du Aragon, du Camus, du Paul Éluard, et j'en oublie. Ouais. Et il y a aussi du Abdal Malik. Ouais. Rebonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, rebonjour.
On va rester dans la musique et vous êtes de retour et vous arrivez avec une voix de femme.
Exactement, une voix pour laquelle j'ai eu un immense coup de cœur. Said the world will be here right after you're gone. You should know better than to take so long. Better make up your mind or watch it all be gone.
J'adore ce son.
Moi aussi, je l'écoute en boucle.
À qui appartient cette voix?
Elle s'appelle Dominique Fils-Aimé. C'est une chanteuse de jazz canadienne de 36 ans. Elle est originaire d'Haïti. Elle s'est faite remarquer dans l'émission La Voix, c'est l'équivalent de The Voice au Québec. Et puis, elle s'est lancée donc dans une trilogie, trois albums. Le troisième vient de sortir. Il est intitulé Three Little Words. Il est empli de références aux grandes voix de jazz comme Billie Holiday, Etta James, Aretha Franklin ou encore Nina Simone. C'est une voix sans fioritures. C'est une voix qui vient de l'âme, vraiment lumineuse, comme l'est Dominique Fils-Aimé. You left me all alone, far from home, with no one to call mine, nowhere to call my own. You left me in the dark, with no Alors Abdal Malik, je tenais à évoquer cet artiste en votre présence parce que je pense que vous avez des points communs. Dominique Fils-Aimé chante la réconciliation. À travers ses trois opus, elle avait un objectif, offrir sa vision musicale, sociale, spirituelle de l'histoire afro-américaine. Et la réconciliation, pour elle, est un des thèmes importants de cette histoire.
Donc c'est pas seulement une voix, c'est aussi une artiste engagée qui veut faire entendre sa voix.
Exactement. En tout cas, elle veut utiliser sa voix pour rendre hommage aux grandes figures qui ont défendu les droits civiques, comme Rosa Parks ou encore Harriet Tubman, surnommée la Moïse Noire, esclave évadée qui libéra plus d'une centaine d'autres esclaves au cours du 19e siècle. Musicalement, Dominique Fils-Aimé, elle traduit cette intention en s'inspirant de tous les courants de jazz. Et puis, elle a particulièrement travaillé pour cet album un son très Motown, comme on dit. Et puis, elle a jonglé aussi avec les cuivres, avec les percussions africaines et des chœurs façon gospel. Been a lot of talking, darling, about me feeling blue. It's a lovely talk till I walk the walk and eat. Figured if the tree's still standing after such a storm, there must be a way. I gotta stay just a few steps to reach that door. You need to know. Sa musique est baignée de lumière, de joie, il y a une douce nostalgie parfois aussi. Elle a digéré en fait toutes les grandes chanteuses qu'elle admire, elle les porte en elle pour créer en fait son propre style.
Et sur l'album, il n'y a que des chansons originales.
Alors presque, le dernier titre est une reprise qui m'a vraiment décontenancée, mais que j'écoute en boucle depuis, reprise d'une chanson très célèbre. In the sky that we look upon, should tumble and fall on the mountain. Chanson écrite en 1961, Stand By Me, inspirée d'un gospel du début du siècle. Three Little Words de Dominique Fils-Aimé est d'une très grande beauté. Et alors évidemment, j'espère qu'une chose désormais, c'est de voir cet artiste sur scène. Réaction. Bien évidemment.
C'est magnifique, c'est d'une beauté, c'est super, vraiment.
Redites le nom.
Elle s'appelle Dominique Fils-Aimé et l'album s'appelle Three Little Words.
Voilà, j'ai ajouté quelque chose si vous voulez chercher. Elle s'appelle Dominique Fils-Aimé, comme un fils
ah oui,
qui serait aimé.
Oui, tout à fait.
C'est en deux mots.
Fils-Aimé.
À la radio, on ne voit pas les mots.
C'est vrai.
Merci beaucoup, Eva Rock. On vous retrouve demain en compagnie d'Abd Al-Malik qui signe sa première série. Ça s'appelle Cité. C'est sur TikTok. Ce sont 12 épisodes de 1 minute, donc 12 minutes. Vous faites des séries désormais. Vous en regardez beaucoup?
Ouais, j'en regarde. J'ai les grands classiques, genre Les Sopranos, tout ça, mais récemment, j'ai pu regarder des choses comme Game of Thrones ou Godfather of Harlem, enfin des trucs comme ça. Mais je regarde assez.
C'est vrai que Game of Thrones, c'est pas du tout un grand classique.
C'est un grand classique, mais Les Sopranos, pour moi, c'est encore un plus grand classique. Mais bon,
exactement.
À chacun, c'est
son... Exactement. Margot Barallon, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour.
Vous regardez toutes les séries, en tout cas beaucoup, les classiques et les pas classiques. Et là, vous avez vu pour nous une série documentaire qui sort aujourd'hui sur OCS. Série qui revient sur un scandale retentissant.
Oui, scandale qui éclate en 1992 et implique à l'époque deux grandes stars du cinéma américain. This is a story of two of the biggest stars in the world. The father is Woody Allen, writer, director, actor. The mother is Mia Farrow, his frequent co-star and the mother of his three children, two of them. Le réalisateur donc Woody Allen et l'actrice Mia Farrow en 92, la seconde accuse le premier de viol sur leur fille adoptive Dylan Farrow et les réalisateurs de cette série documentaire qui s'appelle tout simplement Allen versus Farrow ont rencontré tous les acteurs de cette affaire qui ont bien accepté de leur parler. À commencer par Dylan elle-même, elle a 35 ans aujourd'hui, elle en avait 7 au moment des faits allégués et elle explique pourquoi il est important pour elle d'en reparler.
Au fond, ce que je ressentais vraiment, c'était que j'ai laissé tomber la petite fille que j'étais tant que je n'ai pas pu en parler. J'aurais aimé être plus forte, ne pas m'effondrer sous la pression. Et j'ai besoin de me prouver que je suis capable d'affronter ça.
C'est une affaire dont on a énormément parlé à l'époque. Et puis, il y a quelques mois, est sortie l'autobiographie de Woody Allen qui parle beaucoup, je crois, sur 100 ou 150 pages de cette affaire.
Tout à fait.
Qu'est-ce que la série, justement, Margot, apporte de neuf?
Eh bien, il y a beaucoup d'éléments inédits, notamment des choses très intimes. Des vidéos familiales tournées par Mia Farrow, des enregistrements de conversations audio, des témoignages aussi d'enquêteurs, des services sociaux, les procès-verbaux des différentes auditions judiciaires. Ce qui est très intéressant, c'est évidemment quand la série s'intéresse à la relation entre Woody Allen et Dylan Farrow, qui est extrêmement troublante. Le premier épisode fait comme ça le portrait d'une famille très nombreuse, pas conventionnelle du tout, avec ce père aimant, proche de sa fille, jusqu'à ce que tout dérape. Écoutez ce que raconte Mia Farrow.
Elle a commencé à le fuir, à s'enfermer dans la salle de bain. Et il disait qu'elle se coupait de la réalité ou des trucs comme ça. Mais elle n'était pas comme ça quand il était absent. Elle était très à l'aise et à la minute où il arrivait, elle se transformait en petit animal. Parfois un animal mort, parfois un animal blessé en gémissant par terre.
Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que la série s'intéresse à un contexte plus large. Elle analyse par exemple les œuvres de Woody Allen et la représentation des femmes dedans. Et puis la relation aussi assez toxique qu'il a eue avec Mia Farrow, alors qu'elle était sa compagne et sa muse.
Ce que j'aimais, ce que je pensais n'avait aucune importance. On aurait dit que j'étais là pour le servir. Et j'ai endossé ce rôle. J'ai essayé d'être la meilleure version de la femme qu'il voulait que je sois. Drôle, mais pas trop drôle, vous savez. Avec de la répartie, mais pas trop bavarde. Pendant des années, il m'a dit que j'étais chanceuse de travailler avec lui parce que des actrices de ton âge, tu sais, il y en a des dizaines. Je n'ai qu'à passer un coup de fil pour te remplacer en moins de 2 minutes.
L'ambiance. Mais là, Margot, c'est qu'un point de vue, celui de Mia Farrow.
Oui, alors Woody Allen a refusé de participer au documentaire, mais il est longuement cité via l'autobiographie dont vous parliez, Philippe, tout à l'heure. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu une enquête à l'époque qui n'a pas débouché sur un procès. Et justement, les documentaristes analysent la procédure, pointent des zones d'ombre. Le résultat, je vous préviens, mais très mal à l'aise. On a parfois l'impression d'assister justement à ce procès qui n'a jamais eu lieu. Les documentaristes, eux, se défendent d'avoir fait une série à charge. Ils revendiquent un vrai travail d'enquête. Travail d'enquête qui n'est donc pas du tout favorable à Woody Allen.
On peut s'en faire une idée. Les deux premiers épisodes de Allen versus Farrow, donc Allen contre Farrow, sont à voir sur OCS dès aujourd'hui. Il y en aura 4 en tout, c'est bien ça?
Exactement.
Abd Al-Malik, est-ce que ça vous tente ce genre de série documentaire et celle-ci en particulier?
Ça me tente, oui. Enfin, mais c'est... Waouh!
quand on entend des choses comme ça, c'est glaçant.
C'est très dur, oui.
Ah ouais, c'est glaçant. Il faut, de mon point de vue, il faut toujours être du côté des victimes. En tout cas, ceux qui sont considérés comme tels, véritablement. Et là, donc voilà, c'est compliqué. Dur, compliqué. Voilà.
4 épisodes sur OCS, ça démarre aujourd'hui. Allen versus Faro, merci beaucoup. Margot Barallon, dans un instant, dernière partie de Culture Média avec notre invité Abdelmalik. Abdelmalik avec nous, poète, rappeur, écrivain, une nouvelle corde à son arc, la première série qu'il réalise, ça s'appelle Cité, c'est diffusé sur la plateforme TikTok. 12 épisodes d'une minute, je voudrais qu'on parle de l'épisode 9, il s'appelle Paul Éluard. On trouve deux jeunes dans la cité Paul Éluard. Ils scandent un texte on ne sait pas, enfin... En tout cas, si on ne sait pas que c'est un texte d'Éluard, on ne peut pas le deviner.
Si je te parle, c'est pour mieux t'entendre. Si je t'entends, je suis sûr de comprendre. Si tu souris, c'est pour mieux m'envahir. Si tu souris, je vois le monde entier. Si je t'étreins, c'est pour mieux continuer.
Si nous vivons, tout sera à plaisir. Si je te quitte, nous nous souviendrons.
Et nous quittant, nous nous retrouverons.
Aïe, 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 t'es devenu chaud, toi.
Aïe, 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 t'es devenu chaud. Où est-ce que vous avez trouvé ce texte?
Ben, c'est l'un des poèmes de Paul Éluard. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a
Je vais le dire, parce que si on veut le retrouver, si vous passez le bac français, il s'appelle Certitude et il est tiré du recueil Le Phénix.
Très bien.
Voilà,
très
pour les professeurs qui nous écoutent et les élèves.
Soyons précis. Mais ce que je voulais dire en plus de ça, merci, c'est que il y a un écrivain qui s'appelle Jonathan Franzen, que j'aime beaucoup, qui a écrit un jour que les Baudelaire d'aujourd'hui sont les artistes de hip-hop, les rappeurs. Mmh. Et moi, je le pense, et ça fait longtemps que je dis ça. Et ce que j'avais envie de faire, c'est faire rapper ces jeunes, et on se dit « Ah !» et tout ça, et on se rend compte que c'est un texte de Paul Éluard, pour dire que finalement, tout ça va ensemble, que ce sont les poètes d'aujourd'hui.
Baudelaire, je suis assez d'accord, pour certains, c'est même le premier punk, mais des gens comme George Sand, c'est beaucoup plus académique.
Ouais, mais pour moi, académique, ce n'est qu'un mot. C'est avant tout des gens, finalement, qui ont écrit sur leurs émotions, sur ce qui se passait autour d'eux, sur leur état d'être humain. Et ensuite, certains décident de les rendre académiques, ou plus ou moins académiques, ou en tout cas de les faire rentrer dans une forme d'académisme. Et moi, c'était revenir à l'état premier, à savoir la poésie, tout ça.
Vous savez qu'il y a des débats en ce moment, la culture académique et que la culture de la rue. On a même réécrit, ça fait un petit scandale, on essaie de réécrire Molière pour qu'il soit plus facile à comprendre dans les quartiers. Vous pensez quoi de cette chose-là ?
Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, par contre.
Expliquez.
C'est-à-dire qu'une œuvre, elle a été écrite d'une manière, c'est aux enseignants, à nous autres, c'est aux contemporains, à un moment donné, par rapport à un texte passé, d'expliquer, de le rendre lisible. Vous voyez, là, j'ai pris le texte de Paul Éluard, j'ai pas changé le texte.
Ouais.
Mais par contre, je le fais rapper, je le mets dans un contexte, et deux jeunes dans une cité, etc. Et j'ai fait pareil avec toutes les autres citations, d'où le titre cité, ces citations. Et j'ai fait ça avec toutes les autres citations. Et c'est important, parce que sinon, il y aura une culture à deux vitesses, celle de l'élite et celle des autres. Et moi, j'ai envie de travailler à l'élitisme pour tous.
C'est une jolie phrase, ça rappelle Jean Villard qui avait créé le Festival d'Avignon, l'élitisme pour tous ou quelque chose comme ça.
C'est ça.
Vous êtes un enfant de la République, Abdelmalik, qui vous le rend bien. Vous avez été fait officier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2017. En décembre 2019, chevalier de la Légion d'honneur. Qu'est-ce que ça touche en vous? Qu'est-ce que vous en ressentez?
Ben, je suis honoré. Moi, je me considère comme un patriote, c'est-à-dire... Pour moi, il y a cette idée d'être français, c'est ni une couleur de peau, ni une religion, ni un sexe. On peut être totalement français, avoir nos racines d'ailleurs. Et d'une certaine manière, c'est aussi une forme de reconnaissance par rapport à ça. Mais encore une fois, être français, c'est de mon point de vue le refus de toute forme d'asservissement. Donc, continuer à être exigeant et vigilant par rapport à toutes les injustices, etc., etc., et porter haut et fort le flambeau du fait d'être français, voilà, c'est comme ça que je le vis, et ça fait surtout plaisir à ma maman.
Et je dois dire que ce flambeau, vous le portez également à l'étranger. Il y a 2 ans, le New York Times avait consacré une pleine page, car vous aviez été le premier noir en 157 ans, en France, à mettre en scène une pièce au Théâtre du Châtelet, en l'occurrence c'était Les Justes de Camus, en octobre 2019. Mmh. Un mot du Covid, vous avez été touché par le virus, vous avez été malade?
Ouais, j'ai été malade.
Tout va bien maintenant?
Tout va bien.
Vous avez retrouvé le goût et l'odorat?
J'ai retrouvé le goût et l'odorat. Mais j'ai gardé ce... Il faut se battre pour la vie et il faut être en lien avec les autres, aimer les gens qu'on aime et travailler à la beauté.
Dans le Parisien ce matin, il y a une vingtaine d'acteurs du secteur de la culture qui ont signé une lettre ouverte au chef de l'État pour la réouverture des lieux culturels. Vous en pensez quoi?
Ben oui, je pense que encore une fois, les lieux culturels, la culture est essentielle, c'est vital. Donc on doit évidemment réfléchir à leur réouverture.
Les librairies sont considérées désormais comme essentielles et Marie-Christine Tabet du Parisien écrit dans son édito « La décision d'ouvrir ou non les salles n'est pas simple, elle est éminemment politique, comme de confiner ou non ». Vous êtes d'accord avec ça? C'est politique, c'est pas médical?
Ben là, je pensais que c'était médical, ouais. Mais en toute chose, il y a de l'instrumentalisation. Donc malheureusement, ce qui est sûr, c'est que je pense que les gens sont de bonne intention. Maintenant, on doit vraiment travailler à ce projet commun. On doit être tous ensemble, on doit faire France tous ensemble et de la bonne manière.
Merci beaucoup Abdelmalik. Je rappelle la série Cité qu'on trouve sur TikTok. C'est très très facile de s'inscrire et d'y aller. 12 épisodes de 1 minute. C'est pas sous votre nom, c'est sous le nom de Prime Video FR. Donc c'est dingue, il y a deux grands géants du numérique qui s'associent. Ça aussi, à ma connaissance, c'est une première. Ouais. Et puis je signale également un essai politique sur le monde d'après. Ça s'appelle Réconciliation. Il était sorti en début d'année chez Robert Laffont. Merci beaucoup d'avoir
Merci
été avec nous
reçu.
En direct. Demain, dans Culture Média, on va parler d'une nouvelle collection de documentaires sur RMC Story, La Face Cachée 2. Et ça démarre par Éric Zemmour. Nous serons avec le présentateur, le journaliste Rachid Embarki et puis Denis Brognard, non pas pour une émission mais son tout premier roman, Un soldat presque exemplaire, et ça parle du stress post-traumatique. Juste après le flash, Anne Romanoff, ça fait du bien et je vous dis à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.